Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es. Une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Siturel. Naïm Katan, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Dis-moi qui tu cites. Vous êtes écrivain, romancier, essayiste, critique, auteur d'œuvres théâtrales et d'ailleurs viennent d'être rassemblés aux presses universitaires de Rouen dans une nouvelle collection consacrée aux écrivains francophones. L'ensemble de votre œuvre théâtrale, 20 pièces de théâtre.
Oui, c'est ça. Ça vient de sortir sous le titre « Théâtre ».
Alors, vous me permettrez d'insister parmi la quarantaine d'œuvres que vous avez écrites, toujours en langue française, mais traduites en plusieurs langues, d'insister sur Adieu Babylone, souvenir d'un juif irakien, qui ont été republiés récemment aux éditions Albin Michel. On va probablement y revenir, Naïm Katan. Mais je voudrais, pour résumer votre parcours, si vous le voulez bien, utiliser un adjectif, mais dans le sens très particulier où vous l'utilisez, l'adjectif nomade. Et pour vous, le nomade, par opposition à l'errant, qui ne sait pas où il va, c'est celui qui va d'un oasis à l'autre.
Oui, il traverse le désert pour aller d'un oasis à l'autre, mais il a une direction. Un itinéraire et une direction.
Alors, pour filer cette métaphore, hein, les oasis, pour vous, c'est probablement les cultures que vous avez croisées tout au long de votre parcours. Eh bien, je dirais que vous êtes effectivement un homme qui a traversé des oasis, mais j'ajouterais, peut-être que j'enrichirais, avec votre permission, cette image en disant que non seulement vous allez d'un oasis à l'autre, mais en plus vous bâtissez des ponts d'un oasis à l'autre, à la fois pour vous-même, pour ne pas oublier d'où vous venez et pour pouvoir y revenir éventuellement, mais aussi des ponts pour les autres, pour que les habitants de ces différentes cultures, de ces différents oasis, puissent communiquer les uns avec les autres.
Exactement, c'est exactement ça. C'est une tentative, un espoir et un effort.
Alors, si on part de cette image, donc Naïm Katan, d'un nomade bâtisseur de ponts, je vais essayer de rappeler quels sont justement ces oasis qui ont jalonné votre parcours. Vous êtes né à Bagdad en 1928 dans une famille juive et vous avez été élève dans une école de l'Alliance israélite universelle. Alors il y a la culture juive, bien entendu, la culture et l'identité irakienne, bagdadi. Il y a l'identité française découverte à l'Alliance israélite universelle, puis lors de vos études littéraires à Paris. Et enfin, l'identité canadienne, très importante aussi pour vous.
Absolument. Alors, à l'Alliance, j'ai découvert, à la bibliothèque de l'Alliance, la France. J'ai découvert aussi l'ouverture à l'Europe. Et j'ai lu des livres qui m'ont marqué pour la vie dans la bibliothèque de l'Alliance. Et c'est ça qui m'a permis de partir en France. J'ai passé le brevet élémentaire à Bagdad et j'étais le premier en classe, c'était pendant la guerre, et l'examinateur qui était le premier français que j'ai rencontré qui était venu de Beyrouth, et je citais dans ma dissertation, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'étais très jeune aussi à l'époque, et à Bagdad je citais Malraux et Gide. Alors il était très surpris à l'époque, dans les années 40, que quelqu'un de Bagdad le fasse. Alors, je lui ai dit, alors j'étais le premier au brevet élémentaire, je lui ai dit, je veux aller étudier avec vous à Beyrouth. Il m'a dit, non, vous irez étudier à Paris. Mais je lui ai dit, mais comment Paris est occupé par les Allemands, je suis juif et je n'ai pas d'argent. Il dit, vous aurez une bourse. Paris sera libéré. Paris a été libéré et la première bourse que la France a donnée, à l'Irak, j'ai eu le privilège de l'avoir. Alors, l'Alliance m'a fait parcourir tout l'itinéraire de ma vie. Et à partir de Paris, j'ai fait mes études à la Sorbonne, etc. Et après, j'ai émigré au Canada et je me suis installé là et je suis devenu un écrivain et j'ai dirigé la plus haute institution culturel du Canada, le Conseil des arts du Canada.
C'était qui est un peu l'équivalent du ministère de la Culture.
Exactement.
Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, Naïm Katan, avant d'aborder les citations que vous nous proposez, comme des citations qui vous ont inspiré tout au long de votre vie, eh bien, j'aimerais citer du Katan. Et pour revenir justement, peut-être autrement, sur ce que vous avez découvert à l'Alliance, cette culture française. Les livres étaient pour nous source de vie, écrivez-vous. Nous découvrions les existences rayonnantes et remplies des Européens et nous subissions par contre-coup la révélation de notre vie décharnée, les limites étouffantes de notre milieu. Nous écraserons cette société aveugle, insensible à nos impatiences, qui nous refusait les félicités prodiguées sous d'autres cieux, sans contrainte et sans restriction.
C'est merveilleux de me rappeler cela. C'était vraiment mon espoir. Mais je veux aussi citer autre chose par rapport à l'Alliance. Chaque année, un professeur nous emmenait à Babylone. Babylone, qui est à 80 km de Bagdad. Et là, il nous faisait visiter les jardins suspendus à Babylone et nous dit, nos ancêtres, vos ancêtres, c'est-à-dire des Juifs d'Irak, sont venus ici il y a 25 siècles. Ils étaient des prisonniers et des esclaves. Ils sont devenus des hommes libres, des personnes libres. Et comment ? Parce qu'ils lisaient. Ils avaient un livre. Et ce livre-là, ils ne le lisaient pas seulement, ils l'ont commenté. Ils ont écrit le commentaire, le Talmud. Alors là, depuis ce moment-là, c'est lui pour nous inciter à être de bons élèves à l'école. Quand je commençais à écrire, je dis, mes ancêtres ont écrit le Talmud. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour mériter cette ascendance ? Et ça m'a poursuivi toute ma vie.
Oui, c'est très beau ce que vous dites, parce qu'on oublie souvent, en parlant de l'Alliance, qu'il y a la culture française, mais il y avait aussi un rapport très fort à la culture juive et à la culture du livre, qui faisait le lien entre les deux.
Je vais vous dire, l'Alliance de Bagdad, on enseignait 4 langues, l'arabe, l'hébreu, l'anglais et le français. C'était la meilleure école de la ville en arabe. Et moi, j'étais écrivain de langue arabe. J'ai publié ma première nouvelle dans un livre que l'Alliance a publié en arabe après un concours à 13 ans. Alors, l'Alliance était un centre de la culture arabe aussi. Mais aussi, ça m'a ouvert le monde puisque c'était le centre de la culture française.
Alors on va à présent, Naïm Katan, aborder et affronter ces citations que vous nous proposez avec la première qui est extraite de Jérémie, et je vous laisse la relire.
Ainsi parle l'Éternel Sébaoth, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Épousez des femmes et mettez au monde fils et filles. Donnez des femmes à vos fils, des maris à vos filles, afin qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas en nombre. Travaillez enfin à la prospérité de la ville où je vous ai relégué et implorez Dieu en sa faveur, car sa prospérité est le gage de votre prospérité.
Une citation étonnante puisqu'elle est extrêmement positive, hein,
oui.
À contre-courant de ce qu'on attend de
oui.
Jérémie peut-être.
Alors pour nous, les Juifs de Bagdad, on était là avant les musulmans, avant les chrétiens, avant tout le monde. Tous les autres sont disparus, les Babyloniens, etc. Mais nous, on était là. Mais on a fait prospérer la ville, on était très important. Le quart de la population de Bagdad était des Juifs. Et les Juifs n'étaient pas que des artisans et des commerçants, mais ils étaient des professeurs d'université, des médecins, des avocats. Et les plus hauts fonctionnaires d'Irak étaient des Juifs. Beaucoup ont fait leurs études à l'Alliance israélite universelle, qui a été fondée en 19e siècle. Et c'était un centre très important pour l'Irak.
Alors, qu'est-ce qui vous frappe et qu'est-ce qui vous touche dans cette citation ?
Ce qui me touche, c'est que même si on est en exil, la ville où nous vivons, c'est notre ville. Il faut la faire prospérer, il faut la faire riche et vivante. Et c'est ce que je fais, j'ai fait toute ma vie après au Canada. Au Canada, je suis arrivé, je ne connaissais personne. Et j'ai commencé à m'occuper de la culture canadienne. J'ai écrit beaucoup et j'ai beaucoup fait pour le Canada. Et j'étais directeur du Conseil des arts du Canada. C'était la plus haute institution culturelle du pays. Et c'est pourquoi j'ai fait tout ça, parce que cette ville-là, Montréal, et j'ai travaillé aussi à Ottawa, Montréal était ma ville. Et comme dit Jérémy, la prospérité de cette ville-là est ma propre prospérité. J'ai suivi cet enseignement de la Bible.
Oui, d'ailleurs, dans un film qui vous est consacré, l'un des intervenants dit bah, « Pour moi, Naïm Catan, c'est d'abord un Montréalais, voilà, citoyen de la République indépendante de Montréal. Et vous êtes une figure, effectivement, de Montréal. Alors, vu sous son angle, peut-être, voilà, d'une identité plus fédératrice qu'indépendantiste. Mais vous avez joué un rôle important. Et comme je le disais tout à l'heure, les ponts, vous avez essayé de les dresser, même vis-à-vis donc, de la... Vous avez... rappeler aux juifs canadiens qu'ils pouvaient nouer un lien authentique avec le français, alors que pour eux, français, ça voulait dire catholique, c'était pas forcément possible de faire un lien.
Oui, j'ai fondé la première publication non catholique au Canada. C'est devenu historique, on a fait un thèse de doctorat là-dessus. C'était un petit bulletin, c'était le bulletin du Cercle juif, où je parlais de judaïsme et de la culture canadienne-française. C'était la première publication de langue française par des juifs, mais aussi par des non catholiques. Mais j'ai aussi fait beaucoup connaître la culture canadienne-anglaise aux Canadiens-français.
Et inversement.
Inversement. J'ai créé au Conseil des arts des fonds pour permettre la traduction entre les deux langues. Et c'est devenu quelque chose de très important. Et des rencontres entre les écrivains des deux langues et les gens, les intellectuels.
Et puis vous avez fait aussi connaître le judaïsme aux Canadiens francophones qui ne le connaissaient pas.
Oui, alors quand j'ai publié mon premier livre, mon premier roman, Adieu Babylone, on m'a dit, mais vous parlez de Bagdad et des juifs de Bagdad. Et pourquoi? J'ai dit parce que même si je suis Canadien, reconnu, etc., il faut qu'on me connaisse dès ma naissance, ma figure à moi, c'est ce que je suis, c'est-à-dire un juif de Bagdad. Il faut que je le dise pour que je sois un bon Canadien. On ne peut pas ne pas dire son origine pour être autre chose, pour évoluer, pour marcher, pour prendre son itinéraire.
Deuxième citation, Naïm Catan, une citation de Paul Celan, « Des yeux qu'on a convaincus à force de mots d'être aveugles ».
Oui, alors là, on peut dire ça d'abord des nazis qui ont rempli le monde de mots pour rendre leur propre peuple d'abord aveugle. Et évidemment, Celan pensait à ça, lui qui était l'un des plus grands poètes contemporains de langue allemande, et il a vu que son peuple était aveugle par des mots. Et là, je dois dire qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de mots en arabe qui rendent beaucoup de musulmans très, très généreux, etc., aveugles de ce que c'est leur propre religion. C'est aussi par des slogans et des mots. Et ces mots-là, des mots peuvent éclairer, mais peuvent obscurcir aussi.
La force aussi, voilà, la force du mal qui peut aussi émaner des mots.
Oui, absolument. Et c'est là, l'a bien subi et l'a bien connu.
Troisième citation, André Malraux, une citation bien connue, mais qui a une grande force.
Oui, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Et pour moi, c'est vraiment, si vous permettez, le sens même du judaïsme. Pour les juifs, tout ce qui est important au départ, c'est la vie. Et ce que dit d'ailleurs Jérémie dans la première citation, ce qui est important, c'est la vie. Même en exil, l'importance... pour les juifs en exil, c'est la vie dans leur propre exil. Alors donc, la vie est très importante, mais elle peut être détruite assez facilement. Et après la Shoah, on sait avec quelle horreur on a détruit la vie des juifs. Mais ce qui nous reste, c'est la mémoire de cette vie-là, et cette vie-là qui doit continuer.
Oui, puis une vie ne vaut rien, c'est aussi les juifs à travers les différents exils, combien la vie peut être difficile. hein, et combien... Oui, mais... Et malgré cela, et peut-être justement à cause de cela...
Oui, alors c'est pour ça,
il faut avoir
des enfants, il faut les élever, et il faut protéger les enfants pour qu'ils, eux aussi, grandissent et aient des enfants, et que la vie continue. Parce que c'est ça aussi, c'est pas seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier.
Alors, vous insistez toujours, Naïm Katan, sur la richesse de ces identités multiples hein, que souvent les parcours, justement, des familles juives permettent de développer. Mais en même temps, il y a aussi dans votre œuvre l'idée que émigrer, c'est aussi mourir un peu à sa culture antérieure. Et qu'est-ce que vous gardez comme nostalgie et comme...
Oui, alors, non, moi, je ne veux pas être prisonnier de nostalgie, mais j'ai écrit un livre les villes de naissance, et je dis je suis né dans trois villes. Je suis né à Bagdad, ensuite je suis né à Paris, et ensuite je suis né à Montréal. Alors il y a un renouveau, une nouvelle naissance avec chaque changement, un changement radical. À Paris, j'ai découvert la culture, j'ai découvert la vie sociale et j'ai l'art. Et en quelque sorte, la vie vraiment vit. Et à Montréal, j'ai construit une vie, j'ai eu mon fils, j'ai travaillé et j'ai écrit mes livres. Et c'était une nouvelle naissance dans une autre ville.
Quatrième citation, Naïm Katan, c'est une citation de Shakespeare. Et d'ailleurs, je vais un peu vous taquiner, mais finalement... puisque la dernière sera aussi de Shakespeare, il y a peu d'auteurs français dans ce que vous nous proposez, vous, le grand amoureux de la langue française.
Oui, il y a Malraux. bon, mais pour moi, après la Bible, le plus grand écrivain, c'est Shakespeare. Et j'ai eu la chance de connaître l'anglais et d'écouter souvent d'aller au théâtre pour voir des pièces de Shakespeare, et je l'ai beaucoup lu. Et pour moi, c'est l'un des plus grands. Enfin, pour moi, c'est un grand. Mais j'ai beaucoup lu d'autres. Et puis évidemment, j'aurais pu donner beaucoup d'autres français.
Et qu'est-ce qui fait la force de Shakespeare ?
Shakespeare est multiple. Il a parlé de tout. Et il est énorme. Il a compris tout. Et même, c'est très présent encore aujourd'hui, tout ce qu'il dit. Dans cette citation que je donne, droit à lire.
Allez-y, on la lit. On la lit avant de la commenter.
Oui.
Donc, le roi lire devant le corps de sa fille Cordélia. Morte.
Ma pauvre innocente, ils l'ont perdue. Non, non, pas de vie. Pourquoi un chien, un cheval, un rein auraient-ils vie et toi, plus un souffle? Tu ne reviendras plus, jamais, jamais, jamais. Défaites ce bouton, je vous prie. Merci, monsieur. Voyez-vous cela? Regardez-la, regardez ses lèvres. Voyez, voyez. Et il meurt à ce moment-là. Alors, pour moi... C'est encore une histoire de vie. Chaque fois que j'écoute cette citation, ce passage dans Le Roi Lear de Shakespeare, je l'ai
histoire dramatique avec un lien qui ne s'est pas fait avec
la fille. Ça me fait pleurer. Parce que là, quand on voit Laurence Olivier le dire, et puis d'autres, enfin, j'ai vu beaucoup d'autres le dire, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'une émotion exceptionnelle. Lui qui a méconnu cette fille, qu'il a presque rejetée, il l'a rejetée, et cette fille est la seule de toutes ces filles qu'il a vraiment aimée, qu'il a vraiment reconnue comme père, et il la perd, et il meurt. Et pour lui, il ne peut pas comprendre. Et la mort d'un enfant est incompréhensible. Et c'est ça qui me touche dans cette citation-là. Ce type-là qui était roi, qui était puissant, mais qui à la fin de sa vie était dépouillé de tout par ses autres filles. Il voit que sa fille, qu'il a vraiment aimée et qui est la seule qu'il a reconnue comme véritable père, il la perd. Et ça, c'est une souffrance inouïe. Et c'est la plus grande souffrance qu'une personne, un homme, puisse éprouver. Une femme aussi, évidemment, mais il s'agit de roi lire et c'est cela.
Oui, et puis c'est le comble de la tragédie.
C'est terrible, c'est terrible. Et Shakespeare l'a tellement bien dit, en des mots, rien, c'était un mot très simple, mais dans tout ce d'où Shakespeare est cela.
Dernière citation, Naïm Katan, encore Shakespeare dans La Tempête. Oui. Et là encore, on la relit, on la lit avant de la commenter.
Miranda. Ô prodige, combien de belles créatures vois-je ici assemblées. Que l'humanité est admirable. Ô ce splendide nouveau monde qui compte de pareils habitants. C'est quelque chose de merveilleux. D'abord, il faut dire quel est le contexte. Miranda, c'est une fille qui a vécu en dehors de toute présence humaine, sauf avec son père Prospero et Caliban, mais qui voit pour la première fois des hommes qui sont là devant elle. Et elle, qui est innocente, jeune et innocente, et pas naïve, mais innocente, elle voit l'humanité par des hommes. Elle ne sait pas que ces hommes-là sont des violents, des corrompus, qui sont jaloux les unes des autres. Mais elle les voit. Et elle découvre l'humanité. Elle découvre que l'humanité est belle. Et c'est ça qui est une merveille. C'est son innocence fait que l'innocence de l'humanité lui paraît normale, naturelle. Et cette citation de l'admiration qu'on peut avoir pour l'humanité est quelque chose de formidable, parce que Shakespeare a beaucoup aussi décrit une humanité terrible, parfois horrible, mais il décrit aussi une humanité qu'on peut admirer sans la connaître. Et le titre, on est Brave New World, c'est le monde qui renaît, le monde qui est là, le monde qui est beau, l'humanité qui est belle. Je trouve ça admirable. Qu'il est avec des petits mots là comme ça, et il a pu décrire une humanité qu'on peut accepter parce que l'humanité est véritablement belle. Si l'humanité n'était pas belle, nous, on n'a plus de place.
Alors précisément, Naïm Khatan, dans la période que nous traversons, qui n'est pas une période facile, est-ce que vous arrivez à voir ce brave world, ce monde
pas souvent, mais de temps en temps, je vois quelqu'un qui est généreux, qui sacrifie sa vie pour aller aider des gens. Par exemple, au Népal, il y a eu des Israéliens qui ont envoyé... c'est le pays qui a envoyé le plus grand nombre de gens pour sauver des gens qui mouraient, qui étaient enterrés. Et ça, quelle belle humanité d'envoyer des gens d'une autre partie du monde avec un hôpital pour sauver d'autres personnes qui ne connaissaient pas, qui étaient très différentes d'eux, et ça, c'est The Brave New World. Il y a des preuves de temps en temps aussi. Il n'y a pas que des gens qui s'entretuent et qui envoient des bombes sur les autres. Il y a des gens qui veulent aider les autres, les sauver. Et c'était beau.
Naïm Khatan, merci d'avoir fait ce parcours avec nous. Je rappelle que viennent d'être republiés l'ensemble de vos pièces de théâtre par les presses universitaires de Rouen. Et c'est une nouvelle collection consacrée aux écrivains francophones. Vous avez parmi ces pièces de théâtre une petite préférée ?
Celle qui a été jouée ici au Centre Rachi il y a 3 ans, qui s'appelle « Avant la cérémonie », qui se passe entre Israël et Montréal.
Et alors, disons-nous quelques
oui,
mots.
Oui, mais c'était pour dire qu'on ne quitte pas un pays seulement par idéologie, on le quitte aussi par amour, pour des raisons personnelles. Et on le quitte et on revient par amour et pour des raisons personnelles. C'est ça que j'ai essayé de dire, que le rapport entre Israël et les autres pays n'est pas simplement idéologique, mais c'est un rapport humain.
Merci Naïm Khatan et à bientôt.
C'est à moi de vous remercier.
C'était « Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es », une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Sicurel.